Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec 3 semaines d'avance, Franck Ferrand évoque aujourd'hui la terrible nuit de la Saint-Barthélemy. Bonjour Franck.
Bonjour Carole, bonjour à tous. Une nuit sanglante, une nuit tragique que celle de cette Saint-Barthélemy 1572. Et pour nous aider à jeter un peu de clarté sur tout ce rouge sombre, j'ai demandé au lumineux Jean-François Solnon d'être l'invité de cette émission.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Stéphane sur l'origine de l'expression « autant pour moi ».
Oui, car j'ai eu l'occasion de me rendre compte pendant les vacances que c'était une expression souvent mal comprise. Pour le moment, le temps qui nous intéresse est celui des Valois, aux plus sombres heures de leur histoire.
Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Le 24 août, en France, est une date maudite, c'est la Saint-Barthélemy. Avec son cortège d'images sanguinolentes, il est évident que dans l'époque que nous vivons, avec ces tensions religieuses, avec cette idée de guerre de religion qui plane dans l'atmosphère, c'est un sujet particulièrement sensible. On raconte que Voltaire, quand revenait le 24 août, préférait souvent ne pas se lever du tout. Il consacrait à la méditation ce jour anniversaire. Et voilà ce qu'il écrivait, de façon très cornélienne d'ailleurs, dans sa célèbre et très oubliée Henriade. « Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, le sang de tous côtés ruisselant dans Paris. Le fils assassiné sur le corps de son père, le frère avec la sœur, la fille avec la mère. Les époux expirant sous leurs toits embrasés, les enfants au berceau sur la pierre écrasés. Des fureurs des humains, c'est ce qu'on doit attendre, mais ce que l'avenir aura peine à comprendre, ce que vous-même encore à peine vous croirez, ces monstres furieux de carnage altéré, excités par la voix des prêtres sanguinaires, invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères, et le bras tout souillé du sang des innocents osait offrir à Dieu cet exécrable encens. » Un peu pompeux tout ça, vraiment très cornélien. Le fait est qu'au petit matin du dimanche 24 août 1572, le soleil s'est levé sur un spectacle d'horreur dans Paris, en attendant que les violences du reste ne s'étendent à bien d'autres villes. Nicolas Leroux, qui est l'auteur d'un opus sur les guerres de religion, dit que ce massacre aura été un point rouge, dit-il, dans ce siècle noir qu'est le 16e. En vérité, pour saisir cet événement, il faut remonter une semaine en arrière au 18 août de l'an de grâce 1572, au jour du mariage de la sœur du roi Charles IX, donc la fille de la reine mère Catherine, qui s'appelle Marguerite, Marguerite de France, mariage avec le prince emblématique de la nouvelle France huguenote, le chef naturel des protestants chaque jour plus nombreux alors, Henri de Navarre. Marguerite, elle sera bientôt, et elle restera dans les consciences, la reine Margot. Quant à Henri, évidemment, il s'agit du futur Henri IV. L'idée de ce mariage, c'est de cimenter la réconciliation des élites catholiques et protestantes, Charles IX se posant en garant de la paix civile. Vous savez, au moment de la mort du roi Henri II en 1559, la France est déjà dans une époque de grand bouillonnement religieux et l'on voit naître des violences qui vont exploser littéralement dans le cours des années 1560, en dépit des efforts extrêmes de la reine-mère pour essayer de calmer les extrémistes d'un camp et ceux de l'autre. Il faut vous dire que depuis la paix de Saint-Germain qui a été signée le 8 août 1570, la monarchie française a consenti de gros avantages aux protestants qui pourtant sont considérés à ce moment-là comme vaincus, liberté de conscience et de culte, octroi de 4 villes de sûreté qui sont des lieux de sauvegarde en quelque sorte, et puis une place de choix réservée à l'amiral de Coligny, le grand chef huguenot, au sein même du conseil privé du roi. Et nous allons y revenir à cet aspect-là des choses, parce que évidemment l'influence croissante de Coligny joue un rôle absolument essentiel dans l'histoire qui nous intéresse. Alors tout ça n'est pas venu tout seul. Il faut vous dire que les luthériens, au départ, on va les appeler maintenant les huguenots, car c'est ainsi qu'on les appelle d'ailleurs à l'époque, ont constamment essayé de défendre pied à pied leur foi, leur droit d'exercer la religion nouvelle. 12 années durant, ce sont deux conceptions de la religion qui se sont opposées. Côté protestant, la prétention évangélique à une purification du christianisme de toutes les déviances papiste, comme on dit dans ce camp, et du côté catholique, la volonté de mettre à mort ce qu'on considère comme l'avant-garde de l'antéchrist. Les deux factions se détestent de façon irréconciliable, d'une certaine manière, depuis le massacre des protestants à Vassy en 1562 par la Ligue catholique du duc de Guise, un duc de Guise assassiné du reste dès l'année suivante, en février 1563, probablement à l'initiative de Coligny. Et là, j'insiste aussi sur la dimension assez ambiguë du personnage de Coligny. Je suis ravi que Jean-François Solnon soit dans ce studio aujourd'hui. On va pouvoir parler de Coligny avec lui et voir un peu à qui nous avons affaire. C'est une figure hors du commun, c'est un chef extraordinaire. Ça n'en est pas pour autant un ange, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, au sein du Conseil, Coligny plaide en faveur d'une guerre contre le souverain très catholique, autrement dit contre l'Espagne, afin d'aider les Pays-Bas déjà réformés. Cela, dit-il, ressoudrait l'unité nationale contre l'Espagne. Inutile de vous dire que Catherine de Médicis est totalement opposée à ce genre d'initiative. Charles IX et sa mère en sont réduits à jouer plus ou moins les arbitres entre les deux camps, et si à présent officiellement on fait la paix, c'est une paix bien précaire et l'on n'en continue pas moins d'éprouver de part et d'autre une haine recuite pour ceux du camp d'en face. C'est dire si ce mariage tellement important, mariage de la princesse Marguerite avec ce prince protestant, est mal perçu par la population parisienne qui de tradition est très catholique, et le Parlement de Paris qui réunit tous les hauts magistrats va aller jusqu'à bouder les cérémonies. D'ailleurs, 4 jours après le mariage, on apprend qu'une tentative d'assassinat vient d'être perpétrée contre l'amiral de Coligny. Le 22 août, donc, les Huguenots sont déchaînés à ce moment-là, ils ne se tiennent plus de colère, ils demandent justice au roi, et on va voir le malheureux Charles IX venir jusqu'au chevet de l'amiral, témoigner de sa bonne volonté, et témoigner aussi de l'espèce de très grande amitié, quasiment de piété filiale, qu'éprouve le roi encore jeune pour celui qui lui fait quasiment office de second père. Un conseil secret, peut-être même plusieurs petits conseils, vont être réunis autour de Catherine et du roi. Qu'est-ce qui se décide dans ces conseils? Est-ce qu'on en profite pour convaincre le roi de mettre les troubles à profit pour éliminer une bonne fois tous les chefs protestants? Et si complot il y a, ce qui n'est pas tout à fait avéré, est-ce que la florentine et machiavélique Catherine de Médicis peut en être considérée comme l'âme? Ce sont des questions qui se posent, bien entendu. On prétend que Charles IX se serait écrié au cours d'un de ses conseils extrêmement durs. Eh bien, par la mort Dieu soit, mais alors si on les tue, qu'on les tue bien tous, qu'au moins il n'en reste pas un pour venir me le reprocher après. Et s'il croyait si bien dire?
L'adagio de Barber à l'instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, vous nous faites revivre la sanglante Saint-Barthélemy.
Nous sommes dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 1572. Il est entre 1h et 4h du matin, des groupes d'hommes se répandent dans la ville. À l'exception des princes du sang comme Henri de Navarre, qui d'ailleurs devront bientôt abjurer, on va essayer de mettre à mort tous les capitaines huguenots. Les couteaux s'aiguisent au sein même du palais du Louvre. La tension extrême se mesure aux allées et venues qui agitent le palais. Et au soir de ce samedi fatidique, le roi Charles retarde son coucher. Il tente de retenir un certain nombre de gentilshommes dont il sait la vie en danger, à commencer par La Rochefoucauld, son premier gentilhomme. Il sait très bien que La Rochefoucauld est condamné. Foucauld, lui dit-il, ne t'en va pas. Il est tard, nous balivernerons le reste de la nuit. » Cela ne se peut, sire, répond l'autre. Il faut se coucher et dormir. Alors tu coucheras avec mes valets de chambre, réplique le roi. Les pieds leur puent. Adieu, mon petit sire. La vérité, c'est que le premier gentilhomme a pris un rendez-vous galant. N'oubliez pas que nous sommes au beau XVIe siècle. Comment pourrait-il savoir qu'en quittant le Louvre, il court à sa perte? La reine-mère ne tient plus en place. On la voit faire les 100 pas dans ses appartements, bouleversée, mentalement torturée. Elle décide au dernier moment d'annuler toute l'opération. C'est en tout cas ainsi que nous la présente un des grands chroniqueurs du XIXe siècle. On aura l'occasion d'y venir tout à l'heure. Et sur les coups de minuit, elle envoie au duc de Guise un messager enjoignant le duc de Guise de faire preuve d'une grande modération. Il est trop tard. Le signal du massacre devait venir du beffroi de l'hôtel de ville, mais en fait c'est le tocsin de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, toute proche, qui va donner avec 1h30 d'avance le signal du bain de sang. Entre 1h et 4h du matin, donc, on voit les miliciens se répandre à travers la ville. Gaspard de Coligny est le premier visé. Il tombe sous les coups d'un groupe de spadassins mené par Henri de Guise en personne. Il a été réveillé en pleine nuit, hein, Coligny. On l'a tiré de son lit. Il est transpercé de coups de rapière. La rapière, c'est une épée toute fine, toute longue. Et puis on le défenestre, son corps fera l'objet de multiples outrages avant de finir pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Bientôt, les catholiques se mettent dans l'échauffement du massacre à outrepasser tous les ordres au-delà des chefs militaires. Ce sont bientôt les seconds couteaux qui vont faire les frais de cette chasse nocturne. Bientôt, toutes les familles protestantes, y compris des civils qui étaient venus célébrer le mariage de leur prince, toutes ces familles sont traquées sans merci, on taille, on tranche, on tue sans égard dans une effroyable tuerie collective, traînant l'inévitable cortège de viols, de rapines, de pillages. On peut dire que Paris saigne par toutes ses ruses et par toutes ses ruelles. Au Louvre, l'affolement a gagné les esprits les plus solides, ordre est donné au prévôt des marchands, si vous voulez l'équivalent du maire de Paris, ainsi qu'aux échevins de la ville de faire cesser les désordres. Mais vous savez comment ça se passe, quand on a lâché les loups, il n'est plus possible de faire obéir qui que ce soit. Le sang coule, les cris d'effroi résonnent partout, les bourgeois se terrent en attendant que passe l'orage. Pourquoi aller risquer un coup de griffe au milieu des fauves? La reine-mère et ses conseillers sont là, impuissants, qui assistent au massacre et au pitoyable spectacle des forces qui viennent d'être déchaînées. On voit la reine errer dans les couloirs, on voit certains de ses conseillers se claquemurer dans leur chambre. Ce sont des apprentis sorciers, ces gens, très probablement. L'anarchie est en train de s'emparer de la capitale, où bien sûr, très vite, les vengeances personnelles vont venir s'ajouter à l'ire politique. Coligny a donc été la première victime, je vous l'ai dit, mais il y en a tellement et tellement d'autres. Au petit matin du dimanche, c'est terrible. La tuerie générale a fait entre 2000 et 3000 morts. Et je parle là des premiers morts de cette première nuit à Paris, parce que ça n'est pas fini. Alors dès 11h, le roi publie un mandement qui attribue la mort de l'amiral et celle de ses lieutenants à un règlement de compte interne à la communauté huguenote. On ment sans retenue, on appelle au calme, mais les violences ne s'arrêtent pas aussi facilement et on va continuer de poursuivre les protestants jusque dans les caves, les cachettes, on les traîne jusqu'aux grèves, jusqu'au pont où ils sont assommés, égorgés, précipités à l'eau. Plus personne n'est épargné, ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. On dit que jusqu'aux nouveau-nés sont les victimes de cette tuerie. La Seine est toute rougie par le sang, elle charrie maintenant des centaines de cadavres mutilés de la plus affreuse façon. On ne les a jetés au fleuve qu'avec l'espoir que le courant les conduirait loin, au plus loin même, jusqu'à Rouen peut-être, où ils serviraient d'avertissement aux autres hérétiques. Je vous rappelle qu'à l'époque, Rouen est la deuxième ville du royaume. Le soir et jusqu'au lendemain après-midi, le roi et la reine-mère adresseront lettre sur lettre aux gouverneurs des différentes provinces pour minimiser l'affaire à Paris d'abord, et puis pour dénier toute responsabilité dans ces violences parisiennes. Seulement, ces lettres ne vont pas empêcher les massacres qui se perpétueront à Orléans, à Saumur, Angers, Lyon, Rouen donc, Bordeaux, Toulouse, Valence, Orange, Agen, Castres et ailleurs encore. Le mardi 26, alors que la capitale est toujours en ébullition, le roi se rend au Parlement avec cette fois la volonté de se disculper d'une certaine manière et en même temps la volonté de donner le sentiment qu'il maîtrise la situation. C'est lui qui a ordonné l'exécution des Huguenots parce qu'il complotait contre l'État et contre sa couronne. Ce qui ne l'empêche pas, ce Charles IX complètement dépassé par les événements, de reconduire l'édit de Saint-Germain dont je vous disais pour commencer cette émission qu'il était favorable aux protestants. Alors, que penser du revirement royal? Si l'on en croit la plupart des chroniqueurs d'autrefois, c'est Catherine de Médicis qui aurait été la vraie coupable de la Saint-Barthélemy, et ce ne serait, entre nous soit dit, que le plus odieux des chapitres sinistres qui tissent la légende noire de cette souveraine, et nous allons revenir sur cette légende, bien sûr. On lui prête des dessins très retors. Est-ce qu'elle n'aurait pas été jusqu'à marier sa fille à un huguenot dans le seul but d'attirer à Paris tous les chefs protestants, comme si ça avait été un piège, d'une certaine manière? J'aimerais quand même poser la question suivante. Quels auraient pu être, dans ce cas, les mobiles de ce crime? La mère du roi n'avait pas d'intérêt à relancer des guerres intestines qui plongeraient de nouveau le royaume dans un chaos infernal. C'est même le moins qu'on puisse dire. Elle s'était donné beaucoup de mal, vous savez, depuis des années, pour concilier les contraires. Tous ces gages qu'elle n'avait cessé de donner de son envie de réconcilier les ennemis d'hier, tout cela cachait en vérité, nous disent les chroniqueurs d'autrefois, cachait une soif de vengeance, etc. Vous me permettrez de rester extrêmement perplexe à ce sujet et j'ai hâte évidemment d'en débattre avec Jean-François Solnon et de voir ce qu'on peut penser des intentions de Catherine de Médicis. Ce qu'il faut faire pour essayer de comprendre cette Saint-Barthélemy, c'est prendre un peu de hauteur et, si vous le voulez bien, nous allons nous tourner maintenant vers un pays qui a joué un rôle essentiel dans cette affaire et dont on ne parle quasiment jamais. C'est l'Espagne en vérité.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous parlez de cette sanglante Saint-Barthélemy.
Alors, il faut vous dire qu'en 1572, il y a une grande puissance qui s'oppose à l'ensemble des protestants d'Europe. C'est l'Espagne, très catholique, bien entendu, avec à sa tête le fils de Charles Quint, Philippe. Le roi Philippe II, qui est l'ennemi autoproclamé des protestants. Or, au début de cette même année 1572, dans les Pays-Bas espagnols, qui sont soumis donc à la loi d'Espagne, les Huguenots viennent de se révolter contre le duc d'Albe, c'est-à-dire contre le gouverneur espagnol. Or, ces réformés des Pays-Bas n'ont pas de plus ferme appui que le grand chef protestant français, c'est-à-dire Coligny. Ils attendent de Coligny des renforts et du reste, le roi de France, en personne, Charles IX, avait l'air assez disposé à faire pièce aux Espagnols dans les Pays-Bas afin de desserrer l'étau des Habsbourg sur la France. Vous voyez qu'on est déjà dans cette logique. La monarchie française se méfie d'autant plus de Philippe II d'Espagne qu'en 1571, donc l'année d'avant, et ça c'est très important, la victoire de la Sainte Ligue catholique sur les Turcs au moment de la bataille navale de Lépante a dangereusement doté l'Espagne d'un surcroît de puissance qui en fait quasiment la première puissance en Europe, en tout cas une puissance du niveau à l'échelle de celle-même de la France. Donc les partisans de l'Espagne en France ont été, ça c'est certain, sommés d'intervenir. Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils ont obéi directement à des conseils venus de Tolède? Ça, c'est la question que nous allons essayer de régler. Quant à la reine-mère Catherine, eh bien, de son côté, elle est sans doute moins sensible à ces considérations géopolitiques qu'à des questions d'équilibre interne du royaume. Et elle sait ce que les Huguenots pourraient retirer d'une grande victoire aux Pays-Bas sur l'Espagne catholique. Ainsi donc, si les réformés néerlandais pouvaient compter sur Coligny et très accessoirement sur le roi Charles IX qui était sous son influence, le roi d'Espagne, lui, sait qu'il peut compter à Paris sur la famille de Guise, sur le parti ultra-catholique et puis, mais de manière sans doute secondaire, sur la mère du roi, donc sur Catherine de Médicis. Les hostilités contre l'Espagne vont commencer autour de Flessingue et de Brielle. Charles IX autorise un contingent protestant à occuper Valenciennes et Mons. On est là les 22-23 mai. Tout se passe comme s'il s'agissait pour la couronne de France de ménager les Huguenots. Le temps que soit scellée l'union de Marguerite, de la reine Margot et d'Henri d'Albret, Henri dont la mère Jeanne d'Albret meurt sur ces entrefaites, ce qui repousse le mariage au mois d'août, ça n'était pas prévu. Le plan de guerre est finalement abandonné le 10 août. Alors, vous allez me dire dans ces conditions, pourquoi attaquer quand même les Huguenots? Et spécialement, pourquoi s'attaquer au premier d'entre eux, c'est-à-dire à Coligny? C'est ici qu'il nous faut redescendre sur le plancher des vaches, si je puis dire, et en revenir au microcosme de la cour. Catherine sait combien le retour en grâce de Coligny a tendance à la marginaliser au sein du conseil. Et comme ce retour en grâce confère au roi, qui est très proche de l'amiral, une autorité nouvelle, elle se dit que ça pourrait émanciper définitivement Charles IX de la tutelle maternelle. D'où probablement son accord à cette volonté générale d'une partie des milieux catholiques d'aller très loin dans l'offensive contre les protestants. À qui appartient le bras qui tenait l'arquebuse le 22 août, cet arquebuse qui visait l'amiral de Coligny? Au sieur de Maurevers, qui est un proche, un intime des Guises, mais un intime maladroit puisqu'il a raté son coup. Mauvaise nouvelle pour les Espagnols, précisons à toutes fins utiles qu'après l'échec du premier attentat et juste avant le massacre qui devait ensanglanter Paris et tacher l'honneur des Valois, l'ambassadeur d'Espagne va rompre officiellement toute relation diplomatique avec la France. On a tendance à trop négliger cet aspect essentiel de la question. Alors maintenant, comment ce premier crime politique qui s'est soldé par un échec a-t-il pu dégénérer en véritable massacre populaire? Ça, c'est une autre affaire, une affaire qui offre moins de certitudes et dans laquelle il faut faire la part, évidemment, des mouvements de foule, de l'entraînement, de cette espèce de soif de violence qui parfois peut s'emparer d'un groupe humain. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de l'attentat manqué du 22 août, tout le processus de rapprochement et de conciliation était périmé, que la situation était donc complètement bloquée et que le clan des Guises avait en main les seules ficelles dont la monarchie pouvait encore jouer. Si l'homme de main parle, Coligny, celui qui a donc raté son coup d'arquebuse, Coligny va pouvoir remonter la filière jusqu'où? Vous imaginez comme on commence à trembler dans les couloirs du Louvre, on se dit ça y est, on a raté notre coup. Et évidemment, c'est comme quand on vise un fauve ou un requin, vous savez, il ne faut pas rater son coup. Et là, évidemment, on peut s'attendre à ce que Coligny réagisse. Et on voit bien que c'est très vite l'escalade de la violence. En dernière analyse, il est possible que la mère et le fils, entendez Catherine et Charles, qui étaient un peu pris en étau dans cette situation, se soient entendus sur la nécessité de laisser les Guises débarrasser le royaume des chefs protestants avant peut-être, pensaient-ils, de reprendre le processus de paix. Mais si c'est le calcul qu'a fait Catherine, alors on peut dire qu'elle s'est trompée, puisqu'elle avait compté sans l'effet d'entraînement de la foule, sans la fanatisation du peuple, sans la généralisation de la violence aux principales villes du royaume. Car si l'on parle bien du massacre parisien de la Saint-Barthélemy dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 1572, ce qu'on désigne de façon plus générale par ce terme de Saint-Barthélemy, c'est un massacre osé à l'échelle même du royaume tout entier qui ne va faire que relancer avec une force et avec une violence tout à fait inédite ce qu'on appelait les guerres de religion. Bonjour Jean-François Solnon.
Bonjour Franck.
Beaucoup de questions et autant de réponses à apporter à propos de cette Saint-Barthélemy. Nous y venons en votre compagnie dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
C'était un extrait de l'Orfeo de Monteverdi sur Europe 1 dans Au cœur de l'histoire.
Nous sommes donc en compagnie de Jean-François Solnon. J'ai posé bien sûr beaucoup de questions pendant ce récit parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nuit de Saint-Barthélemy, cette nuit d'août, demeure aujourd'hui encore assez obscure pour les historiens. Alors, ce dont on est à peu près sûr, ce sont les conséquences. Quel est le bilan de toutes ces violences, Jean-François Solnon?
Le bilan, c'est déjà un bilan humain. Il est très probable que la Saint-Barthélemy à Paris est fait entre 2000 et 4000 victimes. Vous allez dire, c'est du simple au double, mais
oui,
on ne peut pas affiner
c'est
davantage.
Un ordre de grandeur, oui.
Et puis cette Saint-Barthélemy va devenir une véritable saison, puisqu'elle va toucher un certain nombre de villes, de provinces de France.
Toute la fin de l'été 1572. Hein.
Et peut-être qu'au total, on évalue les victimes à 10 000 personnes. Donc c'est une des pages les plus sombres de notre histoire, avec, elle n'est malheureusement pas la seule, mais avec les massacres de septembre 1792, pendant la Révolution française, ou la semaine sanglante de la Commune. Mmh. Et c'est un événement sur lequel il y a beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Pour une raison assez simple, c'est que nous ne disposons pas d'un récit circonstancié sur lequel on puisse s'appuyer, que l'on peut éventuellement nuancer, mais on n'a pas cela. Comme les littéraires, lorsqu'ils veulent faire une édition de texte, ont déjà un texte de base. On sait plutôt ce qu'elle n'est pas, plutôt que ce qu'elle est.
Alors voilà, on va venir justement à tout ce qu'elle n'est pas. Parce que pendant longtemps, les chroniqueurs nous ont abreuvé de thèses sur la Saint-Barthélemy. Avant cela, peut-être un tour d'horizon des grands acteurs. Car je les ai présentés peut-être de façon trop sommaire. Charles IX est le roi régnant. On ne peut pas dire que ce soit une personnalité très forte.
Non, il est désormais majeur. Mais il a conservé auprès de lui celle qui était la régente, c'est-à-dire Catherine de Médicis, sa mère. Et Charles IX est un personnage qui est relativement peu connu d'ailleurs des historiens. C'est quelqu'un qui à la fois présente ce contraste entre une santé plutôt débile avec un appétit d'exercice physique considérable. C'est un chasseur, c'est un joueur de paume et il vit dans quelque sorte toute sa nervosité.
Mais c'est un corporel, c'est un physique.
Tout à fait physique. Ça ne veut pas dire qu'il est ignorant de la chose publique, mais il a besoin incontestablement de sa mère à ses côtés. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est frustré.
Voilà, il a besoin peut-être d'un tuteur, que pourrait être Coligny.
Que pourrait être Coligny, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, il est frustré parce qu'il sent très bien que sa mère a une prédilection pour son frère cadet, c'est-à-dire pour Henri d'Anjou, le futur Henri III. Eh oui. Alors, Henri d'Anjou est un grand homme, est un homme grand, je veux dire par là, élégant, raffiné, cultivé, intelligent. Et Charles IX se sent un petit peu en retrait par rapport à lui. A-t-il vraiment besoin d'un mentor ? À propos de Coligny... Donc Coligny appartient à la famille de Montmorency, c'est le neveu du connétable Anne de Montmorency.
Partie de cette très haute aristocratie qui a basculé, si je puis dire, dans le protestantisme génération plus tôt.
Pour les neveux, le connétable est resté catholique, bien entendu, c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille dont on disait qu'ils étaient les premiers barons chrétiens, mais il a des neveux, les fils de sa sœur, dont Gaspard de Coligny, qui en effet basculé du côté du protestantisme. Il y a François d'Andelot, il y a Odette Chatillon. Voilà, ça c'est un groupe protestant et qui va compter énormément. Mais ce qu'il faut peut-être voir, c'est exactement le moment où l'amiral de Coligny est présent à la cour. Et ça, nous le savons. Il arrive à la cour le 12 septembre 1571. Il en repart le 18 octobre de la même année. Et il reviendra pour le mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois au mois de juin 1572. Donc très peu de temps pour pouvoir...
Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on ne le voit pas en fait.
Non, on ne le voit pas. Et je sais bien qu'il fait des parties de paume avec le roi. Je sais bien qu'ils vont se baigner dans l'île Louviers qui existait à l'époque. Je sais bien que le roi l'appelle mon père. Mais la chronologie même indique qu'il est peu présent à la cour. Donc en faire une sorte de deus ex machina... de la politique française me semble très excessif. Et par conséquent, si Coligny n'est pas le mentor du roi, et des protestants le disent, quelqu'un a écrit, monsieur de la Huguerie, a écrit que, en affaire de peu d'importance, le roi écoutait l'amiral, de peu d'importance. S'il ne joue pas ce rôle de mentor, la jalousie de Catherine de Médicis tombe.
Donc
elle n'a plus lieu d'être.
Vous voulez dire que cette thèse selon laquelle Catherine de Médicis aurait laissé faire tout cela parce qu'elle voulait se débarrasser d'un homme qui était en train de détourner son fils du giron maternel,
Je n'y crois pas une seconde.
Bon. Mais alors, si Coligny et les protestants sont très peu présents à la cour, les grands chefs catholiques, eux, et je pense aux Guises notamment, qui sont nombreux, qui plus est, sont très présents.
Alors, non seulement ils sont présents à la cour, ils sont présents à Paris, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Paris est une ville ultra-catholique, catholique ultra. Et en cet été 1572, les Parisiens catholiques trouvent absolument détestable ce mariage qu'ils estiment être un mariage contre nature entre Marguerite de Valois, catholique, et Henri de Navarre, protestant. Pour eux, c'est une exécrable union. D'autant que pour qu'elle soit réalisée, cette union, il faut qu'il y ait une dispense pontificale parce que ces deux futurs époux sont cousins. Mais surtout, en alliant ainsi une catholique et un protestant, il faut une deuxième dispense pontificale que le pape se refuse à envoyer. Donc, les préparatifs du mariage ont lieu, on attend toujours la dispense, elle ne vient pas, et ça irrite au plus haut point d'ailleurs les catholiques. Et ces catholiques parisiens vont arriver dans leur ville quantité de huguenots voilà, qui sont invités au mariage oui. Et qui ont la Bible à la main oui. Et ils parlent un langage qui n'est pas le leur. Ils parlent ce qu'on appelle le patois de Canaan. Ils ont toujours des citations bibliques. Ils sont présents dans une atmosphère surchauffée parce qu'il se trouve que la canicule règne au mois d'août 1572 à Paris.
Presque tous les grands épisodes de violence dans l'histoire se passent dans des moments de chaleur. Vous parliez des massacres de septembre, c'est tout à fait spectaculaire. Bon, la semaine sanglante, c'est moins le cas, mais enfin ça, c'est une offensive militaire. Et déjà, cela dit, c'est la fin d'un printemps qui a été très chaud. Il y a toujours cette dimension de chaleur, hein, quand même, c'est étonnant.
La météo joue un rôle en histoire, ouais, c'est vrai, c'est incontestable, hein, ouais. On ne peut pas le nier. Donc, Paris est une sorte de cocotte-minute en surchauffe où les Parisiens détestent les huguenots qui sont présents et cette anxiété devant l'avenir proche, va être décuplée lorsqu'on apprend que le chef des huguenots, justement l'amiral de Coligny, un grand chef militaire, a été blessé. Il y a eu une tentative d'attentat au moment où il rentrait chez lui.
Alors, qui a armé le bras de Mauvert ? Qui était derrière cette volonté de tuer Coligny ?
Mauvert a déjà des antécédents en ce qui le concerne, parce qu'il a déjà tué un aide-de-camp de Coligny les années précédentes. Ensuite, on sait d'où est parti le coup d'arquebuse. La maison appartient, ou a été louée plutôt, par un prêtre qui est lié aux Guises. Et d'attenter au jour de Coligny est une épreuve importante. Coligny est quand même membre du Conseil du Roi, même s'il est peu présent. Il est chef militaire des Huguenots. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va mettre à bas, comme un malfrat pourrait le faire, dans une rue sombre de Paris, un personnage aussi important. Il est très probable, sans que nous ayons de preuves, il faut être honnête, mais une intime conviction, en quelque sorte, comme on dit dans les tribunaux encore aujourd'hui, que les auteurs réels de cette tentative d'assassinat soient les Guises. Et il faut même peut-être ajouter que les Guises ne sont peut-être pas seuls, parce qu'il faut pour cela une véritable logistique. Même si Mauvert est un maladroit, puisqu'il a raté son coup. Hein, mais il faut une logistique, il est très probable que derrière, il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne de Philippe II. Et j'en vois pour preuve le fait que Philippe II, roi d'Espagne, depuis déjà quelques années, a déclaré, tenez-vous bien, publiquement, qu'il fallait se débarrasser physiquement de l'amiral de Coligny. Donc, c'est des choses qu'on n'oserait plus jamais
l'amiral
dire
de Coligny,
aujourd'hui.
Qui, rappelons-le pour ceux qui nous rejoindraient seulement depuis quelques minutes, l'amiral de Coligny qui était considéré comme le principal soutien des révoltés néerlandais, si je puis dire, flamands, contre la tutelle espagnole sur les Pays-Bas.
Hein. Coligny est celui qui est l'empêcheur de tourner en rond dans l'Europe occidentale du temps, puisque il y a en effet cette révolte des Pays-Bas contre l'autorité espagnole, et Coligny voudrait que la France s'engageât dans le combat contre ces protestants, aux côtés de ces protestants,
contre
l'Espagne.
C'est ça.
Et la France a une situation un petit peu difficile, parce qu'on se dit, si la guerre a lieu dans les Pays-Bas, tous les huguenots français vont aller combattre et on jetterait en quelque sorte la guerre au dehors, alors qu'elle est pour le moment en dedans. Ce serait peut-être une bonne idée.
Ça, c'est peut-être l'idée de Catherine, par exemple. Ça
pas
l'être.
Vraiment, pas vraiment pour la raison suivante. C'est que ce qu'on oublie un petit peu dans cette aventure, c'est que l'Espagne est la première puissance du monde. Du monde. Elle
avec,
est déjà
avec
présente.
Les colonies américaines,
bien
etc.
sûr, elle est présente en Europe, elle est présente en Amérique, avec l'arrivée des métaux précieux qui lui donnent le nerf de la guerre. Et par conséquent, la France, qui est en train chaque mois de regarder ce qui reste dans les caisses, qui n'est pas capable de payer ses soldats et ses mercenaires, se lancer dans une guerre contre l'Espagne, mais c'est la défaite assurée. Par conséquent, Catherine est très réticente, pour ne pas dire plus, est opposée à ce soutien à apporter aux Pays-Bas.
Alors finalement, cette pauvre Catherine de Médicis, on la découvre assez sage sur un plan religieux, très balancée dans la gestion des affaires internes à la cour, particulièrement prudente en matière diplomatique, vous venez de nous le dire. Elle est aux antipodes de l'image qu'on s'en fait habituellement. Il est grand temps, si vous le voulez bien, Jean-François Solnon, que nous redressions la barre et que nous brossions de cette reine un portrait un peu plus véritable.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
C'était un extrait de la bande originale du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui est au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Jean-François Solnon, historien, professeur émérite des universités, auteur notamment de Catherine de Médicis, paru chez Perrin et réédité en format poche chez Timpus.
Évidemment, le film de Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani nous rappelle tout le caractère sanglant de cet événement, de cette Saint-Barthélemy. Ça, c'est directement tiré, j'allais dire, de la Vulgate, de la légende d'Alexandre Dumas, tout simplement.
En ce sens, aucun reproche n'est à faire à Patrick Chéreau. Oui. On a Jules Michelet et Alexandre Dumas qui ont brossé une certaine image de Catherine et de la Saint-Barthélemy.
Et l'un comme l'autre n'avait pas une grande sympathie pour la reine Catherine.
Mais non, mais elle a tous les défauts du monde. D'abord parce que c'est une femme.
Pour eux, oui. Hein?
Ensuite, c'est une étrangère. Elle est italienne. Et c'est une Italienne qui a été tout de même, sinon en première ligne, du moins en deuxième ligne, pendant des années en France. Donc il y a une légende noire dont on arrive difficilement à se débarrasser. Alors qu'il faudrait regarder les faits d'un peu plus près. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas un récit circonstancié. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que nous savons sur la Saint-Barthélemy, et nous savons finalement relativement peu de choses, ce sont des discours ou des récits qui sont partiels. Et certains partiaux. Il n'y a aucune raison d'accorder une foi entière à Agrippa d'Aubigné, le grand poète protestant, qui a évidemment des arrière-pensées. Et ceux qui ont écrit leurs mémoires, je pense à Sully, mais il y en a bien d'autres, ils les ont écrits beaucoup plus tard. Ils les ont écrits 30, 40, 50 ans après. Par conséquent, nous sommes un peu démunis devant cette absence de sources ou devant des sources lacunaires, partiales et partielles.
Eh oui.
Ça facilite pas notre tâche. C'est ainsi que dans la fameuse nuit du samedi au dimanche 23 et 24 août 1572, personne ne sait ce qui s'est dit. Nous n'avons pas de traces écrites. Ce sont des supputations. Donc il faut être humble devant les événements avant de pouvoir les interpréter.
Oui, et il est tellement facile de faire parler les événements quand on n'a pas les éléments écrits, quand on n'a pas
les historiens romantiques savaient très très bien faire ça.
Oui. Alors Catherine de Médicis, dans cette espèce de cocotte minute, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est la France de l'époque, est constamment du côté de l'apaisement. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est apaiser les choses, faire retomber les tensions.
Oui, elle en a donné des preuves déjà. Quand on parle des guerres de religion, vous savez, elles sont tellement nombreuses qu'on est obligé de les numéroter. 1, 2, 3, jusqu'à 8. C'est à la 8e, parce que le peuple est lassé des guerres, que l'on signe l'édit de Nantes. Mais entre ces guerres, il y a des périodes de repos, de paix relative. Et là, Catherine a essayé à plusieurs reprises, ce n'est pas innocent, d'établir ce qu'on appelle la tolérance civile. Vous savez, le mot tolérance, il ne faut pas le comprendre au XVIe siècle comme on l'entend aujourd'hui.
Non, ce n'est pas du tout la tolérance philosophique.
Et une tolérance positive aujourd'hui. Au XVIe siècle, la tolérance, ça veut dire tolérer quelqu'un. On peut rien y faire, donc on est obligé de l'accepter tel quel. Et la tolérance civile de Catherine de Médicis, partagée par d'autres, partagée par un Michel de l'Hôpital, par exemple, chancelier de France, c'est de dire, mais écoutez, on peut pas faire disparaître les protestants par la force. Eh bien, on va essayer une coexistence. Oh, certes, les protestants sont dans l'erreur. D'ailleurs, on les appelle la religion prétendue réformée, la RPR, n'est-ce pas? Donc, ils sont dans l'erreur, mais il faut, pour maintenir la paix dans ce royaume qui la demande, ben il faut essayer de les tolérer, de les supporter. Et pour cela, eh bien on va signer un certain nombre de paix. Vous évoquiez la paix de Saint-Germain, qui avait d'ailleurs donné beaucoup d'assurance aux protestants en leur octroyant des places de sûreté. Mais aussi, ce qui serait très bien, c'est de réunir au sommet de l'État un catholique ou une catholique et un protestant. Et là, ça pourrait être, dans son esprit, la garantie d'une vie, d'une coexistence commune.
Mais ça, c'est la vision d'une Florentine, si je puis dire, qui elle-même était d'ailleurs assez peu versée dans la religion, il faut
c'est
le dire.
C'est une bonne catholique, mais qui n'est pas une théologienne.
Pas du tout, et dont la foi n'a pas l'air très ardente.
La foi, c'est la foi du charbonnier.
Oui, voilà. Hein. Bon. Et cette Catherine, donc, peut imaginer qu'elle pourra aboutir à ça. C'est tout l'inverse qui va se passer dans l'histoire.
Oui. Mais en tout cas, si on adhère à cette idée qui, à mon sens, est juste et authentifiée par les faits d'une volonté de réconciliation nationale, en attendant quoi? Ben, en attendant la réunion, on est en 1572, le Concile de Trente a déjà fermé ses portes depuis déjà 9 ans.
Concile de la contre-réforme, enfin de la réforme catholique.
La réforme catholique, hein. Mais on pourrait faire en France un concile national. Et dans ce concile national, on mettrait les choses sur la table et puis on pourrait s'entendre. Donc dans l'attente de ce concile national, ben, essayons de coexister. Alors quand on sait ça, quand on sait que c'est le pragmatisme qui domine, c'est pas l'idéologie qui domine chez Catherine, c'est le pragmatisme, on peut pas imaginer qu'elle ait suscité la Saint-Barthélemy.
On voit quand même une grande confusion au sommet de l'État, à la cour. Une famille de Guise avec tous les affidés, Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, toutes les familles fidèles aux Guises, qui eux poussent à l'affrontement et à l'attaque contre les protestants. Un amiral de Coligny, beaucoup plus vindicatif qu'on pourrait l'imaginer, qui lui est prêt à porter la guerre dans les Flandres contre l'Espagne. Une Espagne qui est prête à tout pour empêcher Coligny d'aller jusqu'au bout de son dessein. On commence à voir ce qui se passe. Et puis, et ça c'est toujours ce qu'il y a de tragique dans l'histoire, et en même temps j'ai presque envie de dire que vu d'une terrasse c'est très beau, pour reprendre l'image de Jean Giraudoux, c'est le déchaînement d'une violence que plus personne ne contrôle. C'est-à-dire qu'on lance les choses, et une fois la violence lancée, alors là, ça devient la boucherie généralisée, en vérité.
Alors comment lancer, justement, ces choses? Et c'est là où tous les événements de politique étrangère, l'Espagne, et de politique intérieure jouent ensemble et se coagulent, en quelque sorte. C'est que Catherine et Charles IX ont bien compris que Paris était en ébullition. Les Guises sont installés d'ailleurs avec leurs soldats dans un hôtel particulier et qui est très proche du Louvre. La foule parisienne réclame la tête des protestants. Et on a des services d'ordre, comme on dirait aujourd'hui, qui ne répondent plus au roi. C'est le cas de la milice bourgeoise. La milice bourgeoise s'est armée et défile dans les rues alors que le roi l'a interdit. Donc il ne peut pas compter sur elle. Il y a aussi les gardes françaises et les gardes suisses déjà. Les gardes françaises et gardes suisses ne répondent pas aux ordres du roi. Donc il faut imaginer le gouvernement, la cour, enfermée au Louvre, au milieu d'une ville en ébullition, en effervescence, et qui réclame la mort des protestants. Ce qui probablement s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que dans ce fameux conseil dont on ne sait pratiquement rien, entre le 23 et le 24, en tout cas le 24 au petit matin, il est très probable que le roi ait décidé, avec Catherine, ait décidé de faire sortir du Louvre les chefs protestants, en sachant très bien que s'ils sortent du Louvre, ils risquent d'être massacrés. Alors, de deux choses l'une, ou Catherine et Charles IX font sortir les protestants du Louvre parce qu'ils craignent une émeute protestante pour venger la mort de l'amiral, ou l'attentat contre l'amiral, ou alors ils font sortir ces protestants parce qu'ils craignent d'être encerclés par les catholiques ultra et en particulier par les Guises.
Ils s'en servent comme d'un paratonnerre.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la fureur populaire.
Avec des enfants qu'on voit armés.
Points qu'on n'imagine pas aujourd'hui, ou plutôt si dont nous sommes malheureusement les spectateurs, ici ou là, à travers le monde. Et c'est un déchaînement de violence que rien ne paraît pouvoir arrêter. Ça, c'est la machine qui s'est emballée. Et c'est pas quelques huguenots, quelques chefs huguenots qui sont massacrés. Certains en réchappent. Henri de Navarre qui doit se convertir. Condé qui doit se convertir. Sully qui est à l'époque un étudiant.
Sully aurait pu être
assassiné. Mais il a eu l'astuce alors qu'il était
protestant,
Sully,
bien
étudiant,
sûr.
Et il s'est mis un livre d'heures catholique sous le bras. Et il s'est promené dans Paris. Plutôt, il a rejoint son domicile avec ce livre d'heures. Et il est passé pour un catholique. Par conséquent, il a échappé.
Est-ce que c'est bien la reine Margot qui a sauvé son mari?
C'est très probablement, oui, mais de toute façon, le mari devait être sauvé. En aucun cas, Catherine ne voulait la mort d'Henri de Navarre, qui était son gendre depuis quelques jours.
Elle était la moins fanatique, nous dit Paul Joseph, de tous, cette Catherine de Médicis. Attention peut-être à ne pas aller à l'extrême non plus dans l'autre thèse.
C'est une femme politique.
Nous avons beaucoup, beaucoup de réactions via Twitter. On me pose beaucoup de questions et c'est à vous d'ailleurs qu'on les pose, Jean-François Solnon. Alain nous demande si Charles IX était plutôt fou ou plutôt manipulé. Il était en tout cas circonvenu, à défaut d'être manipulé. Il n'était pas fou, il n'avait rien de fou.
En aucun cas, Charles IX est fou. C'est peut-être un être qui manque peut-être de force mentale.
A-t-il trahi l'amiral, nous demande Marianne ?
Mais il n'a pas pu véritablement trahir l'amiral, puisqu'il n'y avait pas de pacte entre l'amiral et lui. Ils se sont vus souvent, mais il n'était pas le fidèle élève de l'amiral de Coligny.
Arthur nous dit qu'il n'a jamais réussi à savoir si le père d'Henri IV, Antoine de Bourbon, était catholique ou protestant.
Mais c'est parce qu'on ne peut pas le savoir dans la mesure où lui-même avait beaucoup hésité entre le catholicisme et le protestantisme. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui parce que nous, on fait deux camps. Il y a les catholiques, d'une part, et d'autre part, les protestants. Et tous ceux qui sont hostiles aux abus du catholicisme, qui sont séduits par l'écriture sainte...
Ils appelaient les évangéliques à l'époque.
Mais qui ne veulent pas faire le pas. Ils sont entre deux chairs, comme l'a dit l'historien. Entre deux chairs. Eh bien, Antoine de Bourbon, Antoine de Navarre, est entre deux chairs, alors qu'il est le mari de Jeanne d'Albret, qui, elle, est une huguenote fervente.
Son fils sera exactement dans la même position, mais avec un peu plus d'opportunisme encore, puisque lui,
ou de pragmatisme.
Ou de pragmatisme, ça dépend des points de vue, évidemment. Audrey nous demande quel a été le retentissement de l'ensemble de ces massacres, parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas cantonner la Saint-Barthélemy au massacre parisien de la nuit du 23 au 24. Il faut imaginer que ça se poursuit dans tout le royaume, etc. Quel a été ce retentissement dans les autres cours d'Europe? Est-ce que ça a eu un impact diplomatique?
Oui, ça a eu un impact. Le pape a fait célébrer à Rome un Tédéum et s'est félicité évidemment de ce massacre. Le roi Philippe II, nous dit-on, a souri. Alors que c'est un homme extrêmement austère, alors voir apparaître un sourire sur son visage, ça semblait être un indice de satisfaction. En revanche, il y a d'autres pays où les protestants étaient nombreux et jouaient un rôle, je pense en particulier à la Pologne, où là on a regardé les choses d'un peu plus près, surtout que très peu de temps après la Saint-Barthélemy, les Polonais vont élire un nouveau roi qui est Henri d'Anjou, le futur Henri III. Et par conséquent, il n'est pas question d'élire quelqu'un qui aurait du sang sur les mains et du sang protestant sur les mains. Et Henri d'Anjou va être élu roi de Pologne pour quelque temps.
Son frère Charles IX, va mourir de remords d'une certaine manière, non? Il a été agité par cette affaire.
Sans doute, oui. La blessure est pour vous, la peine est pour moi, dira-t-il à propos de l'amiral de Coligny. Certainement, être prisonnier au Louvre face à une ville qui est en état d'insurrection, que ce soit du côté huguenot comme du côté catholique, est une situation particulièrement difficile. Et puis, il est vrai que ça fait des milliers de victimes, même si ils n'ont laissé sortir du Louvre qu'une petite quantité de huguenots, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas maîtres du tout de la situation. Ils sont dépassés par les événements. Et ceci, plus sa maladie pulmonaire, j'allais dire ordinaire, font que Charles IX est mort assez tôt.
Merci beaucoup Jean-François Solnon. Je pense que là nous avons répondu à un grand nombre de questions, si nous n'avons pas réussi à tout éclaircir. Évidemment, beaucoup de choses ont été dites dans cette émission.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Stéphane qui veut revenir sur l'expression « autant pour moi ».
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1. cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Stéphane via la page Facebook de l'émission. Il voudrait connaître l'origine de l'orthographe de l'expression « autant pour moi ».
Il y a une véritable polémique autour de cette expression « autant pour moi ». On n'arrive pas à déterminer précisément quand et comment elle est apparue. D'abord, cette expression, ça c'est quand même un peu étonnant. Bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de l'orthographier. D'abord, la conception officielle, si je puis dire. C'est celle du petit Robert, d'un certain nombre de dictionnaires, mais c'est surtout et très officiellement celle de l'Académie française qui attribue l'origine de l'expression au langage militaire. On est dans le jargon de la cavalerie, vous savez, et quand on dit autant, c'est pour ramener le soldat au mouvement précédent. Et bien de même, dans les reprises de cavalerie, lorsqu'un cheval perd le pas, d'une certaine manière, son cavalier demande qu'on revienne au temps pour que tout le monde se remette sur le même rythme, si vous voulez, sur le même tempo. Et donc, il dit « autant pour moi ». D'ailleurs, vous dites « tempo », en italien, on dit « al tempo hein, ». C'est le même principe. Et donc, « autant pour moi », ça veut dire « attention, s'il vous plaît, on revient au temps ». Donc, à ce moment-là, ça s'écrit « au plus loin, temps, T-E-M-P-S », bien entendu. Sauf que, et ça c'est Claude Duneton, qui est historien du langage, qui dans un article du Figaro littéraire notamment, a défendu une toute autre graphie et qui dit que « autant pour moi », ça s'écrit « autant » comme la plupart des gens auraient tendance à l'écrire, c'est-à-dire « A-U-T-A-N-T ». Et il va, lui, jusqu'à nier l'usage militaire de l'expression. Il dit qu'en fait, ça veut dire « écoutez, je ne suis pas meilleur qu'un autre, j'ai autant d'erreurs que vous à mon service, autant d'erreurs pour moi ». Et donc, ça viendrait, voilà, ce serait « autant pour moi » en un seul mot. Je ne prendrai pas parti. Tout de même, notons que selon l'Académie française, l'origine de cette expression n'étant plus comprise, sa graphie est permise dans les deux sens. « Autant pour moi », qui est la graphie courante aujourd'hui, est tout à fait admise, nous dit l'Académie, sauf que rien ne la justifie. J'aime bien ce genre de précision et de modulation. Et bien voilà, merci beaucoup chère Carole, nous nous retrouvons demain.
Oui, merci à vous Franck, c'était Franck Ferrand, à demain 14h pour Au cœur de l'Histoire. Vous écoutez Europe 1, il est 15h.